Comprendre la motivation des investisseurs dans le cas de rendement négatif. Comment les investisseurs peuvent-ils accepter que la somme remboursée additionnée aux intérêts perçus soit inférieure à la somme prêtée? Pour comprendre, nous allons nous pencher sur les différents motifs théoriques qui poussent les prêteurs à charger des intérêts aux emprunteurs. Première hypothèse, les rendements deviennent négatifs parce que le risque de non-remboursement devient lui aussi négatif. Un risque se ballonnant toujours quelque part entre 0 et 100%, mais ne pouvant jamais être négatif, cette hypothèse n'a absolument aucun sens. Deuxième hypothèse, les rendements négatifs marquent l'avènement d'une croissance économique négative, donc d'une récession, baisse du PIB d'une année sur l'autre. Ici, l'idée est de dire que les investisseurs, parce qu'ils cherchent à obtenir via le rendement qu'ils dégagent une participation aux richesses qu'ils aident à créer, se mettent à accepter des rendements négatifs parce qu'ils anticipent un appauvrissement général plutôt qu'un enrichissement. Si cette explication est la bonne, alors les gouvernements empruntent à taux négatif parce que les investisseurs s'attendent à une crise économique. C'est pas la joie. Troisième hypothèse, les rendements sont négatifs parce que l'inflation sera bientôt négative. Ici, les investisseurs considèrent le rendement comme une protection contre l'inflation. Si les investisseurs s'attendent à une inflation négative, une baisse du niveau général des prix, déflation, alors ils vont accepter des rendements négatifs. Comme nous l'avons déjà vu, qui dit déflation dit crise économique. Encore une explication qui va dans le sens d'une anticipation de crise de la part des investisseurs. C'est toujours pas la joie. Quatrième hypothèse, alerte spoiler, c'est la bonne. Les rendements sont négatifs parce que le taux directeur est bas et qu'il y a trop de monnaie sur les marchés financiers. Ici, pas d'anticipation d'une crise future par de sages investisseurs. On touche à la structure même des marchés financiers. D'une part, les banques centrales d'Europe, ainsi que celles du Japon, ont fixé leurs taux directeurs respectifs à des niveaux très bas, voire négatifs, moins 0,75% en Suisse, moins 0,25% au Japon, 0% dans la zone euro. Cela signifie que le rendement minimum attendu par les investisseurs peut être négatif. D'autre part, les gérants de fonds d'investissement spécialisés dans la gestion obligataire sont soumis à des contraintes de flux. Ces gérants promettent aux épargnants qu'ils achèteront des obligations émises par les gouvernements des pays riches afin de minimiser le risque de non-remboursement. Or, non seulement ce type de fonds est très populaire chez les épargnants, mais en plus, ce sont eux qui collectent la monnaie injectée par les banques centrales qui pratiquent le QE, puisque ce sont eux qui détiennent la grande majorité des obligations d'État. Résultat, ces fonds obtiennent beaucoup de monnaie alors que les gouvernements ne veulent pas investir. L'austérité est la norme. Ce qui aboutit à une situation où beaucoup de monnaie cherche à acheter un petit nombre d'obligations. La demande est supérieure à l'offre, les prix montent. Donc, les rendements diminuent jusqu'à devenir négatifs. Notez que cela ne signifie pas nécessairement que les fonds d'investissement ne font pas de bénéfices. En effet, si je vous prête 100 euros avec un rendement de moins 0,5%, mais que je prête 50 euros à votre voisin avec un rendement de 1,5%, alors mon bénéfice est de 100 euros fois moins 0,5% plus 50 euros fois 1,5% égale 0,25 euros. Parce que les fonds d'investissement ne se concentrent pas que sur les obligations françaises ou allemandes, mais aussi sur d'autres obligations dont les rendements demeurent positifs, Italie, Espagne, ils peuvent continuer à dégager des bénéfices, comptables ou réels. Taux d'intérêt et obligations, les risques du métier. Je ne vous ai pas parlé du risque de taux. Nous avons pour le moment mentionné deux types de produits financiers, les actions et les obligations. Comme pour n'importe quel produit financier, c'est bien la loi de l'offre et de la demande qui fait varier leur prix. Cela dit, ce qui devrait motiver les investisseurs à se porter acheteurs ou vendeurs devrait être, en théorie, Nous venons de voir que ce n'est pas le cas, mais nous y reviendrons. Pour les actions, ce que possède l'entreprise et son potentiel de création de richesses futures. Pour les obligations, le risque de non-remboursement et le taux directeur fixé par la Banque centrale. En d'autres termes, le taux directeur entre dans la composition de la valeur théorique d'une obligation. Pourquoi ? L'idée est la suivante. Si le taux directeur est augmenté, alors les obligations émises dans le futur porteront un coupon plus élevé que celles qui existent actuellement. Donc, les obligations du futur seront plus désirables que celles disponibles maintenant. Donc, la valeur des obligations actuelles doit diminuer. On aboutit à la conclusion qu'il existe, pour les possesseurs d'obligations, un risque associé au mouvement futur du taux directeur. Si celui-ci monte, les obligations vaudront moins cher, tandis que l'inverse se produira en cas de baisse. Corrélation entre le taux directeur et les taux d'intérêt. Prenons l'exemple de deux obligations qui portent le même risque de non-remboursement, mais qui possèdent un coupon différent en fonction du taux directeur en vigueur au moment de l'émission. Celle avec le taux directeur le plus élevé est plus attractive que l'autre car son risque de non-remboursement est le même, mais son coupon est plus élevé. La liquidité du marché secondaire quand la finance ne finance plus rien. Maintenant que la structure, les acteurs et les principaux produits échangés sur les marchés financiers sont posés, il est temps de s'intéresser à un concept qui revient très régulièrement dans le discours des experts, la liquidité. En effet, lorsqu'une crise financière frappe les marchés financiers, les professionnels accusent régulièrement le manque de liquidité d'être responsable de la situation. Qu'est-ce que la liquidité ? C'est quoi un marché liquide ? Pour qu'un marché soit dit liquide, il faut qu'il y ait toujours un acheteur en face d'un vendeur. Imaginez un acheteur prêt à dépenser 10 euros pour se procurer un produit financier d'occasion et un vendeur qui ne veut pas s'en débarrasser pour moins de 15 euros. Nous sommes en pleine situation de crise de liquidité. L'échange ne peut pas avoir lieu parce qu'acheteurs et vendeurs ne sont pas d'accord et que tous deux campent sur leur position. Un cas plus extrême de crise de liquidité, on dit aussi illiquidité, consisterait à imaginer un vendeur qui ne trouverait aucun acheteur, quel que soit le prix. Or, lors des paniques financières qui déclenchent les crises, c'est justement ce qui se passe. Les vendeurs impatients de se débarrasser de leurs produits financiers ou immobiliers sont nombreux, tandis que les acheteurs attendent que les prix aient fini de baisser avant de se mouiller. Les vendeurs ont beau baisser les prix, la grande majorité d'entre eux ne trouvent pas preneur. Mais il existe une autre forme d'illiquidité. Pour que la transaction ait lieu, même en imaginant qu'acheteurs et vendeurs sont d'accord sur le prix de l'échange, encore faut-il que l'acheteur dispose de la monnaie nécessaire. Si vous êtes d'accord pour me vendre une de vos actions pour 10 euros, que je trouve ce prix acceptable, encore faut-il que je sois en mesure de vous transférer ces 10 euros. Autrement dit, pour qu'un marché soit liquide, il faut deux choses. De la monnaie disponible au bon endroit, dans la poche des acheteurs et des vendeurs qui s'entendent sur les prix. La disponibilité de la monnaie sur les marchés, c'est Noël tous les jours. Si toute la monnaie disponible dans les tirelires que sont les fonds d'investissement servait à financer les entreprises et les États, il ne resterait plus rien pour organiser le marché de l'occasion. En effet, pour pouvoir vendre un produit financier d'occasion, il faut trouver un acheteur qui peut payer, donc qui possède de la monnaie. Cela signifie qu'une certaine quantité de monnaie reste prisonnière, même si elle change constamment de propriétaire, du marché secondaire afin de permettre les échanges. La question est donc la suivante. Si obtenir l'information de la quantité de monnaie tampon qui organise les échanges du marché secondaire est impossible, car il faudrait reconstituer l'historique de tous les flux entrants et sortants depuis leur création, peut-on au moins faire un état des lieux de ces flux sur quelques années afin d'avoir une idée de la manière dont ce stock de monnaie évolue ? Faisons la différence entre flux entrants et sortants des marchés financiers européens en 2018. 1. Les flux entrants depuis l'épargne vers les fonds d'investissement, en tenant compte des retraits qui font le chemin inverse, s'élèvent à 245 milliards d'euros. 2. Les flux entrants depuis la création monétaire s'élèvent à 279 milliards d'euros. L'achat d'actifs sur le marché secondaire par la Banque centrale, en tenant compte des remboursements qui détruisent la monnaie, correspond à 279 milliards d'euros. Et le montant du financement des banques d'investissement et des fonds d'investissement par les banques est inconnu. 3. Les flux entrants depuis l'économie réelle s'élèvent à 300 milliards d'euros. Les dividendes payés aux fonds d'investissement à 300 milliards d'euros, alors que le montant des intérêts payés aux fonds d'investissement est inconnu. 4. Les flux sortants des marchés et dirigés vers l'économie réelle, 264 milliards d'euros. Les émissions nettes d'actions correspondent à 56 milliards d'euros. Les émissions nettes de dettes par les entreprises non financières à 25 milliards d'euros. Et les émissions nettes de dettes par les gouvernements s'élèvent à 183 milliards d'euros. Au total, en 2018, au moins 827 milliards d'euros, il nous manque les données de financement par les banques de dépôt et les paiements d'intérêts, sont entrés sur les marchés financiers, tandis que seulement 264 milliards en sont sortis pour financer l'économie réelle. Il est également intéressant de noter que le flux de paiement de dividendes de 2018, 218 milliards d'euros, est à lui tout seul suffisant pour compenser toutes les émissions de nouvelles actions, 56 milliards d'euros, et de nouvelles dettes, 208 milliards d'euros, de l'année. En d'autres termes, en 2018, l'économie réelle a davantage financé le marché de l'occasion de la finance que ce dernier a financé l'économie réelle. D'une manière générale, parce que la monnaie circule de plus en plus librement, on parle de liberté de circulation des capitaux, il est très difficile de faire la part des choses et de savoir ce qui rentre et sort des marchés financiers. Cela dit, il semble bien que les marchés sont loin de manquer de monnaie pour l'organisation du marché secondaire. Pire, il semblerait même que les marchés secondaires aspirent la monnaie disponible dans l'économie réelle afin d'organiser toujours plus d'échanges d'occasions et de faire grimper les prix. De plus, comme nous l'avons vu, la quantité de monnaie disponible n'est qu'un des prérequis de la liquidité. Plus de monnaie ne veut pas dire plus de liquidité. Les produits dérivés, le PMU de la planète finance. Le moment est venu de parler d'une autre forme de produits financiers, les produits dérivés. On parle aussi de produits structurés. Nous allons voir que leur rôle est en rapport avec la volonté de maintenir la liquidité des marchés financiers. Chaque produit dérivé est associé à une certaine forme de risque qu'un investisseur transfère sur les épaules d'un autre par le biais d'un pari. Tout est une question d'investisseur prêt à payer pour se débarrasser d'un risque associé à un produit financier sous-jacent et d'autres investisseurs prêts à être payés pour le supporter. Avant de comprendre en quoi ce genre de produit financier aide à la liquidité des marchés, commençons par définir les quatre principaux types de produits dérivés, le contrat à terme, l'option, le swap et le CDS. Pari sur le risque de fluctuation des cours, le contrat à terme. Certains investisseurs veulent s'assurer que la valeur d'une possession ne va pas varier. Il peut s'agir de la valeur d'une tonne de blé, de soja, d'huile de palme, d'acier, d'aluminium, d'or, de café, de pétrole, etc. La grande majorité des matières premières est concernée. Il peut aussi s'agir de la valeur d'un euro exprimé en dollars, ou de la valeur d'une action ou d'une obligation. D'une manière générale, toutes les entreprises qui engagent des coûts aujourd'hui sans savoir quel sera le prix de vente de leur production demain sont susceptibles de vouloir faire disparaître ce risque de fluctuation. Il peut s'agir d'une entreprise comme Airbus, qui paie ses factures et ses salariés en euros, mais qui vend ses avions en dollars. Ou encore d'un agriculteur qui ne sait pas combien il vendra dans 6 mois, la tonne de céréales qu'il produit aujourd'hui. Quel que soit le contexte, prendre une assurance qui garantit que le prix de vente ne peut pas varier est très intéressant pour certaines entreprises. Ce genre d'assurance porte le nom de contrat à terme, future en anglais. Comme le risque pour ces entreprises est que la valeur de la marchandise qu'elles produisent diminue, il leur faut parier sur la baisse des cours afin de réaliser un gain financier compensateur. Le prix baisse, je vends mon blé moins cher que prévu, perte, mais je gagne mon pari, gain. Le coin du spéculateur. Il ne faut pas croire que tous les acheteurs de contrats à terme sont des entreprises qui cherchent à se débarrasser du risque de fluctuation des cours. En effet, les contrats à terme permettent avant tout de parier sur la hausse ou la baisse du prix. Il est tout à fait possible de vendre un contrat à terme sur la tonne de blé sans en être producteur, ou d'en acheter sans avoir besoin de se faire livrer, et donc de ne faire que parier sur la hausse ou la baisse du cours. C'est d'ailleurs essentiellement cela qui se passe sur les marchés à terme. Pari sur le risque de baisse ou de hausse des prix, l'option de vente ou d'achat. Certains investisseurs sont presque sûrs que les actions qu'ils ont achetées, mettons 50 euros, vont prendre de la valeur. Mais ils perçoivent tout de même un risque de baisse qu'ils estiment trop important pour ne pas l'assurer. L'idée est donc de payer une prime d'assurance fixe et connue d'avance, mettons 5 euros, afin qu'en cas de baisse de valeur des actions à la fin d'une période prédéfinie, mettons 3 mois, un assureur s'engage à rembourser la différence. On appelle ces contrats des options de vente, puts en anglais. Donc, si l'action termine à 40 euros au bout de 3 mois, l'assuré aura payé 5 euros pour que l'assureur lui verse 50 euros moins 40 euros égale 10 euros. Évidemment, si l'action est montée ou si elle a baissé de moins de 5 euros, l'assureur est gagnant puisqu'il a touché plus que ce qu'il a versé. Le coin du spéculateur. Tout comme pour les contrats à terme, les acheteurs d'options de vente ne sont pas tous des investisseurs qui s'assurent contre un risque de baisse des cours. Il est en effet tout à fait possible d'acheter des options de vente adossées à des actions sans posséder ces dernières, simplement pour parier sur la baisse de leur valeur. Il existe également des options d'achat, calls en anglais, qui fonctionnent de la même manière mais permettent de parier sur une hausse des prix plutôt que sur une baisse. Parie sur le risque de variation du taux directeur, le swap. Lorsque les entreprises s'endettent auprès des banques, elles obtiennent parfois des prêts à taux variable. L'idée pour la banque est de pouvoir augmenter ou baisser le taux de l'entreprise en fonction de la variation du taux directeur fixé par la banque centrale. En effet, si le taux directeur remonte, le coût de financement de la banque auprès de la banque centrale est plus élevé, ce qui justifie une hausse des taux des crédits en cours. À l'inverse, si le taux directeur est diminué, la banque peut se permettre de diminuer les taux des crédits accordés. Même si l'opportunité d'une baisse du taux directeur est alléchante du point de vue de l'entreprise emprunteuse, la possibilité d'une hausse est un risque significatif que certaines entreprises préfèrent éviter. Le produit dérivé qui protège les entreprises de ce risque de variation du taux directeur s'appelle un swap, un échange. L'idée est assez simple. L'emprunteur s'engage à payer un taux fixe, disons 5%, à un investisseur, tandis que celui-ci s'engage à payer le taux variable, disons 4,5%, du prêt accordé par la banque à l'emprunteur, que l'emprunteur reverse ensuite à la banque prêteuse. Ici, l'investisseur parie sur le fait que le taux variable de l'emprunteur, défini par la banque, ne va pas grimper au-dessus de 5%. Le coin du spéculateur. Ici encore, pas besoin d'une banque prêteuse pour parier. D'un côté du pari, on peut avoir un investisseur A qui promet de payer 5% d'une somme prédéfinie à un investisseur B tandis que ce dernier promet en échange le versement d'un taux variable, pour l'instant 4,5%, mais qui va varier avec le taux directeur. Ici, l'investisseur A parie sur une hausse du taux directeur supérieure à 0,5%, tandis que l'investisseur B fait le pari opposé. Pari sur le risque de non-remboursement, le CDS. N'importe quel investisseur qui possède des obligations prend le risque de ne pas se faire rembourser ou de ne pas se faire payer l'ensemble des intérêts qui lui sont dus. Il est ainsi possible d'acheter une assurance anti-non-remboursement qui porte le nom de Credit Default Swap, CDS. L'acheteur du CDS paie une somme qui correspond au risque de non-remboursement de l'émetteur multiplié par le montant total qui lui serait versé en cas de faillite. Donc, par exemple, pour une obligation dont le principal est de 100 000 euros et qui paye 5% de coupon tous les ans pendant 5 ans, le montant total à assurer est de 125 000 euros. Avec un risque de non-remboursement évalué à 4%, cela donne un CDS qui coûte 4% fois 125 000 euros égale 5 000 euros. Le prix du CDS va évoluer au fur et à mesure que de moins en moins de coupons restent à payer et que le risque de non-remboursement va grimper ou réduire. Le coin du spéculateur. L'acheteur du CDS peut être un investisseur qui cherche à assurer ses arrières en cas de non-remboursement ou un investisseur qui parie sur le défaut prochain de l'entreprise émettrice des obligations. En effet, comme tous les produits dérivés, les CDS sont avant tout des paris. Nul besoin de posséder des obligations pour acheter des CDS. Pour résumer, les produits dérivés peuvent se classer en deux catégories. Les contrats à terme, dont la valeur n'intègre aucune mesure de risque, on s'échange simplement la différence entre la valeur du produit financier sous-jacent, le sujet du pari, à la signature du contrat et à son échéance. Les options, les swaps et les CDS, qui demandent respectivement un calcul du risque de variation du prix, du risque d'augmentation du taux directeur et du risque de non-remboursement du sous-jacent, le sujet du pari.